Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Trois Coups sur les Ondes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que dans Les Trois Coups sur les Ondes, on vous parle de pièces produites sur scène lors du Festival des Trois Coups. Hors Covid, le festival se tient de mars à avril. Mais cette année, la culture est bouleversée et le festival s'adapte en diffusant les pièces produites sur sa chaîne YouTube et Twitch à partir du 5 avril. Tout au long de cette émission, vous aurez l'habitude d'entendre plusieurs voix. Aujourd'hui, vous m'entendez moi, Doriane Rochet, notre chroniqueuse Inès Poirier et mes invités Anaïs Pieneschny et Bastien Nomarotte. Bienvenue dans Les Trois Coups sur les Ondes. Et pour cet épisode, on vous parle de Mascarade, mis en scène par Anaïs Pieneschny et Bastien Nomarotte. Cette pièce, écrite en 2005 par Nancy et Sacha Houston, met en scène dans un premier temps une chèvre et un loup. La chèvre, traquée par le loup, laisse apparaître très vite son vrai visage, celui du chasseur. Tour à tour, les masques tombent et les personnages se font face dans un mot à mot effréné. Je vous laisse maintenant avec Inès Poirier pour découvrir.
Pour lier Mascarade à une œuvre sollicitant le rêve et la folie, je me suis penchée sur de nombreuses œuvres artistiques, mais aucune ne résonnait autant pour moi que le Horla de Maupassant. En effet, dans cette nouvelle écrite en 1886, Maupassant relate des faits de paralysie du sommeil, de paranoïa et d'hallucination. Maupassant a écrit ce texte dans un contexte où lui-même était touché par certains troubles mentaux, ce qui a certainement permis d'écrire ce texte avec beaucoup plus d'exactitude. En écrivant la nouvelle sous un angle médical, tout en faisant parler le personnage à travers ses pensées, il est donc possible de faire écho à Mascarade, qui met en avant ses troubles mentaux avec la confusion des personnages qui changent de personnalité dans la pièce, mais également avec la dimension du rêve, puisque l'on n'est sûr de rien, dans le texte et dans la pièce. Dans le Horla, le lecteur est tenu en haleine jusqu'à la fin, et il est pratiquement impossible pour lui de comprendre si ce qu'il vient de vivre à travers les pensées du personnage était bien réel ou non. Ce qui me plaît réellement dans le Horla est le fait de vivre les mêmes choses que le personnage principal, mais également le questionnement qui arrive à la fin. Pendant la lecture du texte, on ne peut s'empêcher de rentrer dans la tête du personnage et de s'imaginer, et même de se convaincre, que ce que l'on vit n'est pas une hallucination. Mais la fin nous fait douter. Était-ce vrai? Était-ce faux? Au fond, il est vraiment difficile de se mettre d'accord avec d'autres personnes sur ce sujet, car chacun aura un ressenti différent sur la fin du texte en fonction de sa lecture et de son état d'esprit pendant la lecture. Pour ma part, je ne sais pas réellement si j'adhère à la théorie de l'hallucination ou bien si tout était réel, mon avis change une fois sur deux. Mais au fond, c'est cette part de mystère qui nous fait nous questionner et qui rend l'œuvre si intéressante à mes yeux.
Nous retrouvons maintenant Anaïs Pieneschny, metteuse en scène de Mascarade, et Bastien Nomarotte, co-metteur en scène et comédien. Il joue le rôle du chasseur et du rappeur. Tout d'abord, je voudrais qu'on parle un peu du fait que vous êtes co-metteur en scène. Je voulais savoir comment vous distribuez les tâches et pourquoi avoir choisi cette méthode.
Alors déjà, au début, je voulais... l'année dernière, mettre en scène une pièce. Donc, j'en ai longuement parlé avec Bastien, qui m'a donné beaucoup d'idées et qui était partant pour pouvoir jouer en tant que comédien, un des comédiens, dans ma pièce. Et puis, au fur et à mesure, cet été, on en a beaucoup discuté. Il m'a donné notamment Mascarade. C'est lui qui m'a donné l'idée de cette pièce, que j'ai tout de suite appréciée. Et je me suis dit, mais vu qu'on s'entend si bien et que ça marche beaucoup et qu'il me donne beaucoup d'idées, pourquoi pas participer un peu plus et vraiment avoir le statut de co-metteur en scène avec moi. Et voilà.
Alors bien sûr, j'ai accepté tout de suite avec plaisir cette proposition parce que c'est un texte qui me tenait énormément à cœur. C'est un des premiers textes que j'avais eu, moi, l'occasion de jouer en tant que comédien, dans mes premières expériences de théâtre. Et quand elle m'a parlé de son projet et de l'idée qu'elle avait derrière le texte, je me suis dit tout de suite, c'est Mascarade, c'est le meilleur texte qui lui correspondra. Et comme elle a accepté, quand elle m'a dit, je voudrais avoir tes conseils pour développer mon idée, pour mettre en place les propositions de mise en scène et d'acting, je lui ai dit, ok, tout de suite, on y va.
Et du coup, comment vous partagez les différentes tâches pendant les répétitions ?
Alors, c'est très simple en fait. Moi, je suis vraiment au statut de metteuse en scène, donc je pars du principe que j'ai beaucoup réfléchi notamment sur tout l'aspect scénique, les décors, les costumes, la mise en place des comédiens et sur l'histoire générale de la pièce, sur ce que je voulais faire passer entre guillemets comme message. Et après, moi, je n'avais pas du tout l'aspect directement sur scène, en fait, avec les comédiens. Et ça a été plutôt le rôle de Bastien.
Oui, moi, ce que je voulais aussi lui apporter, c'est qu'au-delà des idées concrètes de comment est-ce qu'on pouvait monter quelque chose qui soit visuellement agréable à regarder pour les spectateurs, qui soit intéressant et qui soit vivant, ce que je voulais aussi lui apporter, c'était mon ressenti sur scène. Comment est-ce que je vis l'espace? Comment est-ce que je veux que les gens puissent voir du mouvement, que ça puisse être intéressant, et compléter aussi en lui apportant des propositions pour compléter, que ce soit autour des décors, autour des costumes, autour de même de l'histoire, comment dire, qu'on voulait raconter autour du texte, parce que c'est aussi ça le théâtre, c'est raconter différentes histoires et les mettre en parallèle, et c'est en complétant nos idées comme ça qu'elle a pu, Anaïs, trouver des idées qui lui correspondaient, qui correspondaient au texte, et qui, bien sûr, me plaisaient aussi, ce qui fait qu'on a pu construire quelque chose qui nous plaisait tous les deux.
En fait, on a vraiment eu ce rôle complémentaire. Lui, il avait vraiment tout le côté terrain. Donc, il fait toujours d'ailleurs, parce que c'est encore en mise en scène, la part des choses, c'est-à-dire qu'il me rend compte des ressentis des comédiens, de ce qui se passe réellement concrètement sur scène, de l'ambiance générale de la pièce. Et moi, je pars vraiment beaucoup sur l'aspect général, sur l'aspect très, très théorique de la mise en scène.
Et comment toi, Bastien, t'arrives à faire le balancier entre comédien et mise en scène ?
C'est une bonne question que je me suis aussi pas mal posée au début, parce que fallait que j'arrive à jongler entre cette position de co-metteur en scène et de comédien, que je trouve ma place au sein des autres comédiens sans chercher à avoir un sentiment de hiérarchie, parce que ça aurait pas été très agréable, surtout que c'est des gens qu'on connaissait pas. C'est aussi ça l'intérêt de travailler avec les trois coups. Donc, j'ai cherché à trouver cette position-là et Anaïs m'y a beaucoup aidé en prenant cet aspect directif sur les idées à mettre en place. Donc j'avais plutôt un aspect de conseil que je pouvais notamment avoir grâce à mon contact direct sur scène avec les comédiens. Et j'étais au même niveau qu'eux pour ce qui est du travail pur et dur scénique et du jeu d'acteur, et je me laissais diriger par Anaïs qui là pour le coup avait vraiment tout cet aspect directeur artistique et directeur d'acteur. Et pour le coup, c'est vraiment elle qui a le maître mot là-dessus.
Alors, dans la pièce, on entend beaucoup... c'est une histoire où il y a beaucoup de masques et de choses qui s'enlèvent, etc. Du coup, je voulais savoir comment vous l'avez mis en scène réellement dans la pièce. Et puis, du coup, toi, Bastien, comment aussi tu as pu le jouer, comment tu peux le jouer sur scène ?
Alors, tout cet aspect de masque qui tombe, nous on l'a vraiment tourné sur pas un côté très absurde comme le laisse à penser la pièce initialement, parce que c'est une pièce pour enfants, donc c'est très drôle, ça se base sur l'humour essentiellement, mais moi j'y ai vraiment apporté on y a vraiment apporté un aspect très, très réaliste, avec une ambiance pour le coup plus adulte, et sur l'idée du masque en fait dans la société au sein des sujets tabous notamment. Et donc, on a vraiment cet aspect du masque social, sociétal, du masque psychologique aussi, où on se voile la face sur certains de nos problèmes. Et on a travaillé vraiment sur ça, en se basant sur l'humour et le texte essentiellement.
C'est exactement ça, en fait. C'est que cette idée des masques qui tombent, on a voulu la transformer pour s'approprier le texte. Parce que c'était vraiment quelque chose de trop littéral pour nous, de prendre au pied de la lettre cette idée d'un enchevêtrement et d'un enchaînement de personnages. Et on s'est dit, dans quel sens on pourrait tourner ça? Quel sens on peut donner à cette idée de masque qui s'enchaîne, qui tombe les uns les autres? Et effectivement, l'idée de faire un parallèle avec notre société et avec les masques que l'on peut porter dans la vraie vie, ça nous semblait très intéressant à essayer de mettre en place et de créer un parallèle entre cette pièce très comique, très colorée, et quelque chose de bien plus réaliste et presque plus sombre, en fait, quelque part. Et pour répondre à ta question sur ma vision de ça en tant que comédien, j'ai avant tout accepté l'idée que fallait que je me plie comme n'importe quel comédien, d'ailleurs aux décisions qu'on pouvait prendre avec Anaïs et qu'elle appliquait et qu'elle tournait à sa sauce pour que ça lui corresponde le mieux possible et que sa mise en scène soit la plus sincère. Et forcément, en tant que comédien, j'ai pris énormément de plaisir à trouver cet équilibre entre le côté comique de la pièce et cet aspect très réaliste et très sombre qu'on voulait mettre en parallèle.
Du coup, vous parliez de choses psychologiques, etc., quand vous parlez de masques qui tombent. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler justement de ces aspects que vous vouliez montrer ?
Alors, en fait, bon, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est un peu le sujet initial et je veux laisser le show aux téléspectateurs de comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre, ce qu'ils peuvent comprendre aussi. Mais vraiment, j'ai vraiment apporté quelque chose de très réel, de très troublant, ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Du doute humain, en fait, du manque de confiance en soi aussi, et d'une certaine forme de maladie psychologique, si on peut dire ça comme ça. Voilà.
En fait, ce qui nous plaisait aussi énormément, c'est que souvent, quand on est amené à regarder une comédie, on a deux positions qui sont envisageables. On a la position du divertissement pur et dur, où on profite de la blague pour la blague, et la position où l'humour sert un propos. Et c'était vraiment cette idée-là qui nous intéressait, surtout partant d'un texte à la base qui est destiné à être joué par des enfants et donc dans lequel le propos sous-entendu est forcément moins présent. Donc tout ce parallèle psychologique nous semblait assez intéressant à essayer de mettre en place. Donc bien sûr, ça reste avant tout une comédie. L'objectif, c'est que les gens viennent la voir avec le sourire, mais qu'ils puissent aussi en profiter pour réfléchir sur des sujets qui nous semblent importants aujourd'hui, très actuels, et pas forcément dans l'air de cette idée d'une pièce enfantine.
En fait, on travaille vraiment sur l'idée de l'humour qui sert un propos plus poussé que ça. Et on a pris le parti de laisser le choix de comprendre, que les spectateurs comprennent ou non comme ils veulent. S'ils partent du principe qu'ils veulent juste rire et ne pas comprendre le fond de la pièce, bah c'est très bien. Et moi, ça nous convient parfaitement. On aura fait une part du travail qui est la plus importante. S'ils veulent réfléchir, ils veulent comprendre, ils se disent « Ah, mais d'accord, il y a aussi ce sous-entendu-là », c'est très bien aussi. On ne se prend pas du tout la tête. Nous, on a travaillé sur tout cet aspect psychologique et sous-entendu de l'intertextualité, mais c'est pas notre but aussi de faire comprendre ça.
Vous parliez que c'était une pièce à la base écrite pour les enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touchait énormément et vous vouliez justement mettre ces choses-là en perspective ?
Alors, comme je le disais, effectivement, c'est une pièce que j'ai pu connaître en tant que très jeune comédien. J'avais 10 ans, en fait, quand j'ai commencé à la jouer pour la première fois. Donc, on avait à ce moment-là une mise en scène qui était très simple et très simplifiée pour que ce soit accessible pour être joué par des enfants. Et j'avais envie de prendre du recul sur cette pièce dont je gardais un excellent souvenir et de sortir de cette mise en scène très enfantine pour en faire quelque chose de plus concret. Maintenant, sur l'aspect purement textuel, c'est aussi très intéressant comme expérience de lire un texte avec un autre regard que celui qu'on avait quand on était enfant. Quand je l'ai lu en étant enfant, je voyais avant tout les personnages complètement colorés et extravagants qu'il y avait dans cette pièce, sans chercher plus loin. Et en le relisant maintenant avec mon regard plus adulte, j'ai eu la chance de comprendre énormément de sous-entendus, ne serait-ce que juste dans les blagues et dans les jeux de mots déjà, des choses qui me passaient par-dessus quand j'étais plus jeune et qui m'ont frappé maintenant et qui m'ont semblé être plutôt adressées aux adultes qui regarderaient le spectacle, sûrement en tant que parents. Et en le lisant, c'est là que je me suis rendu compte tout l'intérêt d'un conte pour enfants quelque part, d'une pièce de théâtre pour enfants. C'est cet aspect qui va tant d'être destiné à la fois aux enfants et à un public plus âgé, puisque forcément une pièce pour enfants ne s'adresse pas que aux enfants.
Oui, il y a vraiment cet aspect de la dualité, et j'adore la dualité dans le théâtre. Et à la base, initialement, je voulais vraiment mettre en scène une pièce de théâtre axée sur l'humour. Vraiment, c'était quelque chose, je voulais faire rire les gens, enfin pas faire rire les gens, mais je voulais vraiment de l'humour, pas me prendre la tête. Et j'ai cherché, cherché, énormément cherché de textes qui me correspondaient et je n'en trouvais pas. Et vraiment, Bastien m'a donné ce texte sur un plateau d'argent en disant « Mais ce que tu veux faire, ça me fait penser à cette pièce. Lis-la, dis-moi ce que t'en penses. Si on prend pas ça, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Mais vraiment, lis-la. » Et je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. Et il y a plein d'idées qui me sont venues en tête. Et comme dit Bastien, cette pièce, vraiment, elle a cet aspect du « ça sert pour les enfants, c'est vraiment une littérature jeunesse ». Mais à côté, il y a tellement de choses pour les adultes qu'il faut, travailler là-dessus, il faut développer ça. Et on est parti sur ce texte en partie pour ça.
Donc, du coup, c'est un texte qui est quand même relativement absurde quand on le lit sans mise en scène, etc. J'aimerais bien avoir votre ressenti, vous, sur le théâtre de l'absurde et comment vous le vivez et comment vous le mettez en scène, le jouez, etc.
Alors, je vais peut-être laisser d'abord parler à Bastien, parce que lui, c'est vraiment sa firme à lui. Moi, je suis axée sur l'humour, mais j'aime beaucoup le côté très philosophique du théâtre. Et l'absurde, pour le coup, ça a vraiment été travaillé par Bastien, et il m'a beaucoup conseillé là-dessus.
C'est vrai que l'humour absurde au théâtre, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial, parce que ça nous permet de prendre énormément de recul sur ce qu'on voit, sur ce qu'on vit, et sur ce qui peut nous faire rire. Ça me semble très important d'être capable de rire de quelque chose qui n'a pas de sens et de sortir de cet humour qui parfois peut sembler nécessairement dénonciateur de telle ou telle chose ou qui peut vite tomber dans quelque chose qui ne correspondra pas à tous les goûts. Alors bien sûr, l'humour absurde, en règle générale, ne correspond pas à tout le monde, mais il a cet avantage d'être complètement ouvert puisqu'il ne cherche pas à dénoncer, il ne cherche pas à expliquer, c'est avant tout le rire par le surprenant, par l'inattendu. Et cette pièce, elle propose un humour absurde qui reste relativement accessible puisqu'il est écrit pour les enfants. Donc c'est une initiation à l'absurde quelque part, dans le sens où on va avoir des blagues, des jeux de mots qui surprennent par leur aspect impromptu et qui à la fois sont tout à fait compréhensibles et accessibles pour n'importe qui. Et c'est ce juste milieu qui me semblait intéressant puisqu'il est facile de le mettre en relation avec des sujets plus importants quand on le souhaite. Et comme c'était l'envie d'Anaïs, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de trouver le juste milieu entre ces deux styles d'humour, ces deux styles de théâtre, et d'en faire quelque chose qui nous plaise à tous les deux.
Donc dans la mise en scène, il me semble que vous avez mis en place des ombres chinoises, un tableau blanc, quelque chose comme ça. Je voulais savoir comment vous aviez eu cette idée-là et comment vous le mettiez en scène réellement sur place.
Alors, quand j'ai travaillé sur ce texte la première fois, quand j'ai lu en fait la première fois ce texte, j'ai fait à Bastien, banco, on prend ce texte. Je reviens vers toi dans quelques semaines avec une mise en scène et des idées. Et vraiment, pendant plusieurs semaines, il y a eu un total silence radio. Parce que j'ai confronté ce texte avec ma vision du théâtre, avec ce que je pouvais tirer de ce texte, donc l'intertextualité, le côté très, très psychologique et très sombre en fait de ce texte. Et j'arrivais pas à trouver de lien avec le texte initial de Mascarade, qui est quand même une boucle, qui est quand même très absurde, comme on en parle depuis tout à l'heure. Et j'arrivais pas à le raccrocher avec ce que je pensais, moi, de ce texte et de l'intertextualité. Et je n'avais pas d'idée de déclic. Et à un moment donné, c'est en parlant avec une connaissance, j'ai expliqué mon problème, qui m'a dit « Mais si tu jouais avec l'aspect du miroir ?» Parce que Mascarade me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et là, au moment où j'ai eu le mot miroir dans la tête, j'ai fait « Waouh, mais c'est ça en fait ». En fait, tout simplement, je vais couper la scène en deux et j'aurai deux réalités. Donc jouer avec cette corde qui sépare la scène en deux avec des draps, au début qui étaient encadrés par une sorte de miroir, où on passait à travers. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'on a modifié un peu notre mise en scène. Et je suis vraiment revenue vers Bastien au bout de quelques semaines en le harcelant de vocal et en lui disant « Mais Bastien, j'ai des idées, regarde, on peut faire ça. » Et Bastien a été noyé d'idées, littéralement, le pauvre, j'en suis désolée encore. Et il a fait « Mais c'est une super idée, on part là-dessus. »
J'ai rien de plus à rajouter, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une flopée d'informations de « Regarde tout ce qu'on peut faire avec ce texte, c'est exceptionnel, c'est un potentiel visuel incroyable. » Alors que deux jours avant, c'était « Non mais je sais vraiment pas, j'arrive pas à voir comment on peut le montrer. » Et là, elle a eu ce déclic. Et à partir de ce déclic, on a commencé à discuter, on a dit « Ok, cette idée-là, comment on peut la concrétiser? Comment on peut la développer ?» Et on a commencé à réfléchir, à vouloir faire quelque chose de très visuel, en fait, comment nous on l'imaginait. Et ça a continué d'évoluer derrière, puisqu'on a pu en discuter avec nos comédiens, qui nous ont eux aussi apporté leur point de vue, de par le personnage qu'ils interprètent, et de par la vision globale qu'ils avaient de Mascarade, en nous disant, ça c'est une bonne idée, peut-être qu'on pourrait aussi rajouter ça, ça, ou modifier ça, ça. Et on s'est retrouvé à faire légèrement évoluer la mise en scène pour qu'elle nous corresponde le plus possible, tout en gardant à l'esprit que c'est avant tout fait pour être vu par des spectateurs qui ne doivent pas se retrouver complètement perdus devant une pièce complètement, comment dire, qui part trop loin et dans laquelle on ne comprend plus rien. On voulait quelque chose qui soit clair. Et je pense qu'on a, pour l'instant en tout cas, trouvé un juste milieu qui nous plaît. Alors évidemment, la mise en scène est amenée à encore évoluer, puisqu'une pièce, ce n'est jamais figé. Mais je pense qu'on a quand même rendu à un stade où on peut être assez fier de nous, oui. Je pense.
Et puis, pour en parler des ombres chinoises, c'est donc vraiment pour instaurer cette idée de dualité. J'aime tout ce qui est par deux. Je suis très psychopathe par rapport à ça. Tout fonctionne par deux. Et du coup, vraiment, l'idée de couper la scène en deux, ça me plaisait, mais c'était pas assez. Et j'ai rajouté donc ces draps avec les ombres chinoises derrière pour pouvoir jouer sur le monde fantasmagorique de l'avant-scène et le monde réel qui est derrière ces rideaux.
Du coup, en termes de position du corps, etc., vous avez dû sûrement faire un travail plus dur, plus, enfin, parce qu'un théâtre, c'est le mouvement d'un corps, mais c'est aussi et beaucoup ce qu'on en dit et comment on joue la chose. Et du coup, voilà, je voudrais savoir comment ça a pu être apprécié par les comédiens ou plus compliqué. Et le travail que vous avez fait justement sur l'image du corps et dans la pièce.
Alors déjà, disons qu'on a été sincères avec les comédiens. On a dit, écoutez, vous partez sur un projet bizarre, un projet qui n'a aucun sens maintenant, mais vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer dans les détails. Et surtout un projet qui s'inspire beaucoup du monde d'Alice. Et c'est, de toute façon, mes comédiens, ils m'ont fait tous le même retour. Mais j'ai pris ce projet parce que ça m'a fait penser à Alice, ça m'a fait penser à ça, ça, ça. Je me suis dit, oui, mais c'est exactement ça que je voulais faire passer comme message, donc c'est très bien. Et surtout, la plupart ont été attirés par l'idée de chorégraphie. Parce que sur scène, on a vraiment instauré, Sébastien m'a aidé dans une grande partie là-dessus, chorégraphie, moi je ne m'y connais pas du tout, dans l'aspect très chorégraphié. Tout geste a un sens dans la pièce parce que justement, on a dû faire la part des choses entre les phrases qu'on peut utiliser pour le monde réel et les phrases qu'on peut utiliser dans ce monde très, très bizarre qu'est Mascarade. Et donc, on a dû instaurer cette idée de il faut faire un geste pour chaque. Un geste qui a un sens pour chaque phrase. Et donc, tout est très, très chorégraphié.
En fait, on s'est assez vite retrouvé dans cette idée de donner un geste précis pour apporter une idée précise, parce que le théâtre, si ça s'arrêtait au texte, ce ne serait pas intéressant à regarder. Il faut que le théâtre ce soit intéressant à écouter, à regarder et littéralement à vivre. Et donc cette idée de chorégraphier notamment le début et la fin de notre pièce qui font cette relation entre le texte et ce qu'on met en scène, c'était important pour nous. Après, on a été assez rapidement confronté à la difficulté des répétitions visio, dû forcément aux contraintes sanitaires, mais je pense qu'on a quand même su jongler entre l'apprentissage du texte et l'intention à donner dedans en tant que comédien et en même temps cette idée chorégraphique des mouvements qui ne pour autant ne bloquait pas nos comédiens, qui ne les empêchait pas d'apporter leur liberté, leurs idées et de donner eux-mêmes vie à leur personnage, mais on avait quand même cette envie de donner vie à quelque chose qui reste assez chorégraphique, assez régulier et très réglementé.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations.
De rien, un plaisir.
Merci à toi.
Mascarade est une pièce pour enfants écrite en 2005, de la plume d'une mère, Nancy Houston, et de son fils, Sacha Houston. Naissent de nombreux personnages tous liés entre eux, mais brouillant les pistes de l'intrigue principale. La scène s'ouvre sur deux personnages, la chèvre et le loup, tous deux traditionnels dans les contes pour enfants. Le loup parlemente en vue d'attaquer la chèvre, mais bientôt, celle-ci fait tomber le masque pour laisser apparaître le chasseur. Voilà le loup qui perd sa position de force et se voit contraint à la conciliation. Poussé dans ses retranchements, le loup délaisse lui aussi son masque au profit de l'épouse du chasseur. Lui, l'homme fort et armé, se fait maintenant tout petit face à sa femme. Et ainsi de suite, pour ce jeu où, à tour de rôle, l'un et l'autre abandonnent son identité pour en découvrir une nouvelle, plus puissante, plus à propos. On sent le plaisir qu'ont eu les dramaturges à berner le lecteur avec cette pièce de théâtre où on s'enfonce peu à peu dans un jeu d'identité. Qui est qui ? Quelle est la réalité des deux personnages ? Anaïs Pieneschny et Bastien Nomarotte, les commetteurs et metteuses en scène, ont pris le pari d'illustrer cette pièce en amenant l'absurde dans un cadre plus réaliste. Tous deux ayant un lien très différent avec les deux mouvements, ils cherchent à faire rire le spectateur, mais pas seulement. En effet, jouer sur l'idée de masque permet de toucher à la fois le spectateur qui souhaite se divertir, mais également celui qui veut se questionner sur la notion d'identité et sur les rôles que l'on prend dans la société. L'angle enfantin de la pièce originale semble s'effacer et laisser place à un aspect plus psychologique. L'écran blanc et les ombres chinoises apportent la dualité présente à la fois tout au long de la pièce et dans l'approche des deux metteurs et metteuses en scène. En ajoutant cet autre art sur scène, on peut également apprécier le travail qui est apporté sur le corps et sur son mouvement. Cette émission fait partie de la saison 2 des Trois coups sur les ondes. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site Radio Campus Angers. Nous vous remercions de nous suivre et nous espérons que vous profitez des pièces diffusées sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les dates de diffusion, suivez-nous sur Instagram et Facebook @festivallestroiscoups. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir participé à notre émission. Juliette Chevet, Louise Lefebvre, Justin Loisy, Inès Poirier, Martin Bélier et Amélie Rocher. Merci à Radio Campus de nous prêter leur studio et leur matériel et de nous allouer leur temps. Merci également à Cobalt d'avoir cru en notre projet. Merci pour le mixage et le suivi de projet. Cette émission est réalisée par trois membres du bureau des Trois Coups, Zoé Paré, Emma Muller et moi-même, Dorian Rocher. L'émission est coproduite en partenariat avec Cobalt. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi prochain, 16h30. À bientôt !